Le cinéma horrifique est selon moi un cinéma bien trop sous-estimé. Il souffre de l'image d'un cinéma trop facile et très loin de toute subtilité. Dans ces petites chroniques, nous allons film par film tenter de redorer son blason. Salut à tous, chères auditrices et auditeurs, je suis Rémi Lambert. Vous écoutez C'est du sirop de maïs et aujourd'hui je vais vous parler du silence des agneaux. C'est du sirop de maïs.
C'est du sirop de maïs.
C'est bizarre, non?
C'est du sirop de maïs.
Attention, ça fait peur.
C'est du sirop de maïs. C'est du sirop de maïs.
La chronique qui parle d'horreur avec le nom du faux sang au cinéma.
Que cet ennemi n'ait aucun pouvoir sur elle, je suppose qu'elle soit impuissant à nuit.
Ta mère suce des queues en enfer, grâce, excréments sans foi.
Sirop de maïs.
Alors pour commencer, Le silence des agneaux est un film réalisé en 1991 par Jonathan Demme. Le film débute avec une jeune femme faisant un footing dans une forêt, même si cela a un air de début de slasher. On apprend un peu après que cette personne n'est autre que Clarice Starling, une étudiante à l'université du FBI en Virginie. Sa mission est simple dans le film, mais très délicate. Convaincre le docteur Hannibal Lecter, ancien psychiatre d'excellence, manipulateur hors pair et détail négligeable, cannibale, à l'aider à retrouver le tueur en série Buffalo Bill. Eh bien, pourquoi ça fait peur ? Pour moi, ce qui fait le plus peur dans ce film, c'est l'omniscience d'Hannibal. Il calcule chacun de ses mots et analyse en profondeur chacune des vôtres afin de dresser un portrait le plus précis de vous. Il vous analyse pour savoir où frapper mentalement, créer une domination psychique, savoir si le jeu en vaut la peine. Hannibal ne prend pas le temps d'étudier les plus vils. Par exemple, peu de temps qu'après Hannibal rencontre Clarice, il pousse au suicide avec ses mots un co-détenu qui avait proféré des paroles et des actes salaces à la vue de Clarice. De plus, Hannibal prend son temps pour approfondir son jeu, le rendre plus savoureux, Il tient tout le monde en haleine avant de révéler l'identité du tueur Buffalo Bill tout le long du film. Et si on passe outre son jeu mental avec nous, il reste terrifiant avec son obsession pour la chair humaine et sa capacité à se sortir de situations totalement impossibles. Cependant, Hannibal met un point d'honneur à respecter ses égaux, les personnes qu'il juge excellentes, et ne les chassera pas, si j'ose dire. Par exemple, Clarice, qu'il trouve quand même... je vais essayer de trouver mes mots en même temps. Hannibal pense que Clarice est une personne d'excellence, qui est amenée à devenir une personne excellente dans son travail ou même dans son avenir. Et à la fin du film, après son évasion, il pardonne, reconnaît la supériorité de Clarice et la félicite même d'être devenue une agente du FBI et ne la poursuivra pas. Et reconnaît totalement son adversité. Mais par contre, il n'oubliera pas les faux pas des autres et n'hésitera pas à les déguster avec quelques fèves au beurre. Le film ne laisse rien au hasard, même si les couleurs du film restent un peu pâles, elles apportent un côté intemporel à mon goût. Outre cet aspect, le film nous apprend toujours quelque chose, chaque scène nous donne une information, chaque plan aussi. Je vous conseille de le regarder pour savoir ce que je raconte, c'est impossible de décrire vraiment ce qu'il se passe séquence par séquence, plan par plan, car vous n'aurez pas la même interprétation que moi, mais... une chose est sûre, c'est que l'image de ce film est belle, sans doute graphique, mais belle. La musique est comme dans ce film, comme la performance d'Anthony Hopkins. Rien ne déborde, tout est calculé. On n'est pas là sur un psychopathe qui va être totalement exagéré. Pareil pour la musique, tout est cadré, tout est fait en sorte pour que rien ne déborde, tout est fait en sorte pour que... le jeu tourne bien. Et comment ne pas terminer cette chronique sur ce film aux 5 Oscars pour meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleur réalisateur, meilleur acteur et actrice qu'avec la musique Aria Goldberg Variation qui illustre le film dans le film Le meilleur et le pire d'Hannibal en une scène. Et si vous connaissez cette scène, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est l'une des meilleures de ce film. Et tout de suite, nous écoutons ce morceau.
Thank you.
La musique est aussi belle que la folie et même la décadence que peut faire preuve Hannibal dans tout ce film. Je voulais aussi remercier Demoiselle d'Horreur, que nous avons pu rencontrer et dont l'interview sortira bientôt, qui a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube pour parler plus en profondeur du personnage de Clarice Starling, voilà, qui m'a quand même un peu aidé, qui m'a quand même un peu beaucoup aidé pour l'écriture de cette chronique. Et c'était un véritable plaisir de parler de ce film qui est un peu sous-estimé, mais que je pense, ça reste mon opinion, mais je pense qu'il reste quand même un film à voir du cinéma horrifique, tout simplement. Ça reste un chef-d'œuvre. Tout de suite, vous allez entendre notre interview avec Christophe, président de l'association Ciné-Catch-Up, association qui permet la diffusion de classiques du film d'horreur au grand écran, à l'Aigle dans l'Orne. Bonjour Christophe.
Bonjour à toi, bonne nuit.
Alors, quel est le tout premier film d'horreur que tu as regardé ?
Alors, le tout premier film d'horreur que j'ai regardé, ça remonte déjà à quelques années, et puis à l'époque, on n'avait pas comme maintenant, tu sais, il n'y avait que trois chaînes à la télé, il n'y avait pas les plateformes, il n'y avait pas de... comme maintenant. Donc le premier film que j'ai regardé, c'était, fin des années 70, j'étais encore gosse, je devais avoir une dizaine d'années, et je suis tombé sur un vieux film de la Hammer qui s'appelait Le Cauchemar de Dracula, avec Christopher Lee, un film de vampire, si tu vois ce que c'est. Et donc là, c'est vrai que j'ai eu très peur, j'étais gosse, hein. J'ai eu très peur et j'en avais fait des cauchemars la nuit. Et mais paradoxalement, tu vois, j'ai aimé ça. J'ai aimé avoir peur. Et c'est ça qui m'a fait après me passionner un peu pour ce genre de film. J'étais à chaque fois que ça passait à la télé, ce genre de film. Donc c'est le tout premier film, c'est Le Cauchemar de Dracula.
Il y a une scène en particulier dans ce film qui t'a fasciné ou t'arrivais pas à décrocher ta tête de ce passage-là?
Ah bah le passage, c'est surtout la fin qui m'avait impressionné quand Dracula après tu regardes ça maintenant, tu vas rigoler, mais c'était quand avec la lumière il se transforme en liquéfie, quoi, il devient de la poudre, et puis ça m'avait impressionné. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sang dans le film, en fin de compte. C'est surtout le gothisme, c'était gothique, c'était l'ambiance, le château, tout ça. C'était ça qui faisait flipper à l'époque.
D'accord. Et du coup, après des années, et encore quelques années plus tard, tu as créé le Ciné Ketchup, une association sur l'Aigle, avec des amis.
Bah oui, tu sais, entre deux, moi je suis parti sur Paris, et là, sur Paris, c'était des 1080, pour moi c'était Disneyland, d'abord, tu sais, des cinémas partout, donc j'allais voir plein de films, et après je suis revenu sur l'Aigle, et j'ai fréquenté un peu, tu sais, le Corto. Bah, l'Aigle, c'était cette bar qu'il faut fréquenter. Et on parlait beaucoup cinéma, musique, BD. Et t'avais des jeunes avec nous, quand ils nous écoutaient, qu'on disait, on parlait de films et tout, qu'on avait vu au cinéma, et ils nous disaient, ce genre de film, ça doit être bien sur grand écran. Et c'est comme ça, Pierre, qu'on a décidé, pourquoi on ne s'arrête pas de faire une association où on pouvait passer des anciens films, ou même des récents, sur grand écran. Et c'est comme ça qu'a démarré Ciné quelque chose.
Ça marche. Et du coup, vous diffusez vos films sur le cinéma L'Aiglon, à l'Aigle.
Ah oui, on a vu ça avec Doudou, là. Donc, Doudou, Edouard, qui gère L'Aiglon, s'il pouvait nous laisser des créneaux. Donc, du coup, ouais, on diffuse ça à L'Aiglon, à l'Aigle, assez régulièrement, tu vois. Ça marche avec un système d'adhésion. Pour 15 euros l'année, t'as le droit à 4-5 films. On passe à environ 4-5 films dans l'année. Et des fois, il y a des séances à l'été. On fait deux séances au Corto. En privé, en cercle privé. Mais ouais, ça veut pas ça, ouais, 4-5 films par an.
D'accord, et vous avez jamais essayé, par exemple, d'essayer de rediffuser d'autres films dans d'autres cinémas de l'Orne?
On avait été contacté à un moment avec le cinéma de Mortagne. À Mortagne, le cinéma un peu comme l'Aiglon, et on n'a pas eu de nouvelles. Mais nous, à la base, ce qu'on aurait aimé faire, c'était le but. C'était de faire comme un petit festival, tu vois, sur 2-3 jours. C'était un petit festival avec plein de films, des nouveaux, des anciens, avec une rétrospective. On aurait bien aimé, mais ça c'est un peu dans le rêve, inviter des acteurs. Mais ça, je pourrais peut-être voir. Après, avec le nouveau cinéma qui est en train de se monter sur l'Aigle, peut-être qu'on aura peut-être des possibilités un peu plus grandes qu'avec l'Aiglon actuellement.
Que penses-tu du coup du cinéma d'horreur de nos jours?
Bah, tu sais, le cinéma d'horreur de nos jours, je décroche un peu parce que franchement, il n'y a pas grand-chose. C'est en ce moment, de nos jours, c'est plus envahi par tout ce qui est Marvel. Après, je comprends. Hein. Moi, j'étais gosse, j'aurais aimé avoir des Marvel à l'époque. Et là, tu as tout ce qui est Marvel, les DC. Et il n'y a pas beaucoup de nouveautés, à part les films comme The Conjuring. Tu as eu après, début 2000, tu as eu tout ce qui a été fait comme Twin Fantage, les Blair Witch, t'as tout plein de films qui ont dérivé de ça. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité, quoi. C'est rare, les films où ça se renouvelle, où t'as un certain renouvellement du film d'horreur.
C'est lequel, du coup, le dernier film d'horreur qui t'a le plus marqué, le plus impacté?
Le dernier film d'horreur qui m'a le plus impacté? Tu vois, j'étais voir Méandre, j'ai bien aimé.
D'accord.
Méandre, là, qui est sorti il y a à peu près 3 semaines. Sinon, vraiment, le dernier film d'horreur qui m'a le plus impacté. Après, ça va être un film, on va dans le malsain, c'est dans le genre calvaire, ce genre de film. Mmh. Et Fabrice Duhuel, ça va être c'est ce genre de film. Gaspard Noé, j'ai bien aimé, Seul contre tous. Après, ouais, ça va être un certain type de cinéma qui est pas ouvert à tout le monde. Tu vois, le cinéma de genre, en France, ça a du mal à... Tu trouves que dans quelques salles, quand un film sort, tu le vois que dans quelques salles en France. C'est pas distribué, c'est pas une grande distribution hexagonale. Donc quand t'habites dans une petite campagne pour voir le film, faut que t'attendes qu'il passe à la télé ou en sortie DVD.
Mmh. Et j'allais te poser aussi une question. Il y a pas mal de remakes en ce moment de grandes franchises, Les Griffes de la Nuit, Vendredi 13 et tout ça.
Oui, ça a démarré après, ouais. Parce que, à mon avis, le cinéma, la plus grande période la meilleure période pour le cinéma d'horreur, pour moi, c'est 70-80, les années 70, les années 80, et mi-90. Après, il est arrivé dans un cycle, début 2000, où on commence à faire des remakes, comme Massacre à la tronçonneuse, Les Vendredis 13, La Colline à des yeux. Et c'est ça que je te dis, il n'y a plus beaucoup de renouvellement, il n'y a plus beaucoup d'originalité dans le cinéma. D'horreur.
Et pour toi, un bon remake, ça devrait être quoi?
Ouais, est-ce qu'un remake, ça a des qualités? Ouais, parce que ça remet un peu au goût du jour le film, mais est-ce que c'est vraiment bon un remake? Moi, j'ai peu de remakes qui sont vraiment bons, à part peut-être La Colline à des yeux de Aja, qui a été un très bon remake. Mais en général, que ce soit pour le film d'horreur ou pour les films dits normaux, Les remakes sont rarement bons.
T'as une idée de remake qui t'a particulièrement déçu?
Le remake qui m'a particulièrement déçu? Plusieurs. Vendredi 13, Le Dernier Massacre à la tronçonneuse. Franchement, pour moi, un remake, c'est pas forcément que la copie conforme du film original. Tu devrais avoir une certaine originalité. Pas forcément les effets spéciaux, hein, parce que ça n'a rien à voir. Mais t'as pas d'originalité, quoi. À part faire la copie du film, je vois pas l'intérêt, quoi.
Moi, à titre personnel, du coup, en termes de remake, j'ai lui de Evil Dead de 2013, par Fede Alvarez. Je trouvais quand même...
Ah bah, c'est vrai. C'était différent. Déjà, au niveau de l'histoire, et puis mettre une femme en tant que protagoniste principal, plutôt que H. C'était déjà ouais, une originalité, tu vois ça.
Ouais, et puis c'était cool, ça apportait une petite touche un petit peu plus réelle, tu trouvais.
Ouais, t'es un peu de sang frais, comme on dit.
Exactement.
Ouais.
Ton film préféré et pourquoi?
Oh, mon film préféré, j'en ai plusieurs. Là, c'est une question impossible à répondre.
Bah, allez, un top 3 alors.
Alors, je mettrais, dans mes films préférés, je mettrais Massacre à la tronçonneuse, hein, bah, l'original. C'est, comment dire, pour moi, c'est ce qui se fait de pire dans le domaine du malsain, dans le domaine, parce que si tu connais le film, après, t'as pas de son. Tu vas voir le film, tu t'attends à voir de la découpe à la tronçonneuse de partout, mais non. Mais c'est vraiment malsain, c'est l'ambiance. L'ambiance, c'est ça qui fait le film, quoi. C'est pas forcément l'interdiction, tout ça. Ça, c'était la pub à côté, mais ouais, ça va être Massacre à la tronçonneuse. J'aime bien le premier Freddy, l'école de la nuit, c'était original pour l'époque. Ça changeait un peu des slashers de habituels, Jason et Michael Myers d'Halloween. Qu'est-ce que j'aurais en français, par contre, qu'est-ce que j'aurais comme film préféré en français, parce que c'est rare les films français, les bons films français. Ça serait Les yeux sans visage, un vieux film des années 60 de Franck, qui est considéré comme vraiment le premier film d'horreur français.
Le dernier film récent, ou pas du tout, le film qui t'a le plus traumatisé, un film où tu t'es pas senti bien les prochains jours, enfin les jours après l'avoir vu.
Un film où que j'ai trouvé vraiment, ça va être Calvaire. Calvaire de Fabrice Wells, qui date de 2004. Je sais pas si tu connais.
Si, je connais.
J'ai trouvé ça assez mince. Après, t'en as d'autres, hein. T'as Délivrance, des films qui te laissaient un peu, des certaines scènes, qui te laissaient aussi, réfléchir. Seul contre tous, de Gaspard Noé. Ça fait partie des films un peu qui te font réfléchir.
Il y a aussi Grave, du coup, dans la même veine, qui est sorti il y a
pas
si longtemps.
Bah oui, on l'avait passé en partenariat, ouais, Grave, mon film, ça, ouais, c'était, bah, là, c'est, mais des films comme Grave, production française, un film français, t'en as un dans l'année, quoi. C'est ça. C'était assez original, faut dire.
Ouais. C'est vrai qu'il était pas d'ailleurs, mal, quand même.
D'ailleurs, on attend le prochain film, là, son prochain film, à la réalisatrice, là, qui s'appelle Titane. Je pense que ça va le voir.
Quel est ton sous-genre préféré dans l'horreur?
Le sous-genre, bon, ça va être le gore, pour rigoler. Tous ces films gore, comme Brain Dead, comme Evil Dead, comme tout ce genre de films où il y a du sang et tu rigoles, quoi. Ça se prend pas au sérieux.
Ouais. Un petit côté série B sur le côté, là, aussi.
Ouais, voilà. Ouais.
T'as un réalisateur préféré ou pas du tout?
C'est pareil, j'en ai plusieurs. Je vais avoir Carpenter. J'aime bien Wes Craven, j'aime bien Tom Hooper, mais Tom Hooper à ce début. J'aime bien Fabrice Duwels, le réalisateur belge. J'en ai plusieurs. J'ai pas vraiment de préféré, quoi.
D'accord.
J'aime bien Romero, dans un autre style.
Effectivement. T'as très très bon réalisateur, se dit en passant.
Voilà, ouais. Puis après, ça va être des réalisateurs, mais des vieux, tu sais, les Murnau, tu sais, la première, le tout début du film fantastique, Murnau, tout ça, c'est des bons. Après, Terence Fisher, l'époque Hammer, t'en as plein, tu penses, c'était toi.
Mmh. Est-ce qu'il y a un film que tu as pas du tout aimé, vraiment, où tu t'es dit ça allait être bien? Et finalement, c'était plat comme je ne sais quoi, et puis voilà, t'as pas du tout aimé.
Je suis plutôt bon public, donc y a pas vraiment de film que j'ai pas vraiment aimé, parce que même quand j'aime pas, je trouve toujours un truc dans le film pour me faire aimer le film. J'avais vu La Horde, je sais pas si ça dit quelque chose, La Horde, un film français aussi de Daron, personne l'a aimé. Moi, j'avais trouvé ça pas mal du tout. Mais il n'y a pas vraiment... Non, je trouve toujours un... Après, c'est peut-être pour donner une excuse. Hein. Je trouve toujours un truc dans le film qui fait que je l'ai aimé. C'est un peu débile, ce que je dis.
Non, t'inquiète, c'est ton raisonnement.
Il n'y a pas de film que j'aime pas.
D'accord. Il y a une saga dont tu voudrais voir la suite.
Une saga?
Ouais.
L'Église de la nuit, ou Halloween, ou dans ce genre de saga.
Ouais.
Bah, franchement, non. Moi, je préférerais avoir de la nouveauté. Tu vois, comme là, il va encore avoir fin d'année, il va encore y avoir un nouvel Halloween. Mais, j'aimerais bien avoir de la nouveauté, soit un nouveau slasher, non, il n'y a pas de saga. Enfin, je trouve que, après, si tu tournes en rond, parce que quoi faire de neuf? Faut bien qu'à un moment, le héros ou le méchant, il meurt. Ouais, mais... Non, je préférerais avoir de la nouveauté.
D'accord. Et il y a un film, ou pas, d'une saga, admettons, une suite d'une saga, que t'aurais pas dû... T'as trouvé que c'était la suite de trop.
Ouais, je crois que ça va être... Hellraiser. y a même pas, c'est même pas la suite de trop, c'est que ils auraient dû s'arrêter au 3, là, maintenant qu'on arrive à 9, ils vont faire un 10e. Je crois qu'ils auraient, ils auraient dû s'arrêter au 3e, parce qu'après, ça devient du grand n'importe quoi. Même au niveau, après, tu vois les moyens, les machins, ça, les acteurs, tout, ça, ça ne peut rien avoir. Et le réseur.
D'accord. L'icône du cinéma d'horreur qui est la plus parlante selon toi. Si jamais tu devais choisir un personnage pour représenter tout le film d'horreur, tu choisirais qui?
L'icône? Les Orpès. Les Orpès pour moi, ouais, c'est le plus simple, c'est le meilleur, il parle fort. C'est le principal. Un peu comme Michael Myers, mais je préfère les Orpès.
Le film d'horreur parfait. Celui qui n'avait absolument aucun défaut.
Je sais pas si c'est ça. Le film d'horreur parfait. Je vais dire... Branded. Pas de défaut. Pour le fun. Le film à voir entre potes. Branded.
D'accord. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce cinéma, à part le fait que tu aimes bien avoir peur?
Qu'est-ce qui me plaît le plus dans ce genre de cinéma?
Ouais.
La surenchère. Au fur et à mesure des films, voir jusqu'où on peut aller dans la surenchère des effets spéciaux. Et puis c'est carrément le contraire. C'est de la vie réelle, quoi. Tu sais très bien que c'est pas possible. C'est ça qui me plaît, quoi. En fin de compte, c'est ce qui me plaît dans le cinéma, c'est que la détente, se détendre. Aller au cinéma pour se détendre et passer un bon moment, quoi.
C'est du sirop de maïs.
C'est du sirop de maïs.
C'est bizarre, non?
C'est du sirop de maïs.
Attention, ça fait peur.
C'est du sirop de maïs. C'est du sirop de maïs.
La chronique qui parle d'horreur avec le nom du faux sang au cinéma.
Que chaque ennemi n'ait aucun pouvoir sur le supposé soit impuissant à minuit.
Ta mère suce des queues en enfer, grâce, excréments en foi.
C'est du sirop de maïs.